Vivante Église. Vivante Église. Vivante Église, le magazine régional de la vie chrétienne. Une émission proposée par Emmanuel Pella.
Ces derniers jours, dans les rues des villes d'Occitanie, on pouvait voir des affiches avec le slogan suivant « Donnez un visage à votre épargne ». Il faut dire que du 6 au 13 novembre dernier avait lieu la semaine de la finance solidaire. La finance solidaire, une dénomination qui paraîtra aux antinomiques dans ses propres termes à certains, quand d'autres se diront encore une histoire de doux rêveurs, preuve s'il en est que cette finance mérite bien une émission. Voilà, ce matin, cette émission Vivante Église, Finance solidaire, l'autre finance, avec autour du plateau, il y a du monde. Alors, dans l'ordre, honneur aux dames, Aurélie Baudouin, vous êtes responsable recherche ISR au sein de Mescart Asset Management. Vous nous direz, enfin, on vous présentera après l'ISR et Mescart Asset Management. Bonjour.
Bonjour.
Philippe Troesch, vous êtes président du directoire de Mescart Asset Management. Bonjour aussi.
Bonjour.
Et par téléphone, nous sommes avec Pierre-Louis Montero, qui représente FinanSol dans cette émission. Vous avez été mandaté pour être leur porte-parole. Et vous êtes par ailleurs chef de projet Caritas Habitat. Bonjour.
Bonjour.
Voilà. Parlez bien près de votre téléphone. Et Jean-Paul Vigier, premier président de FinanSol, et également chroniqueur connu de nos auditeurs, on va dire chroniqueur, doctrine sociale de l'Église, au sein de l'équipe de Radio Présence. Bonjour.
Bonjour.
Alors, émission de défi ce matin pour apprendre à découvrir, que vous nous aidiez à découvrir ce monde de la finance, je disais une autre finance. Je compte sur votre mansuétude pour nous tenir par la main. La première actualité, c'est donc cette semaine de la finance solidaire. Alors, Pierre-Louis Montero, peut-être pouvez-vous nous dire, elle est achevée, certes, mais ce n'était pas sa première édition, et donc on a vu fleurir aux quatre coins de la France ces affiches où on voyait deux visages, l'un en gris et en couleur. On va dire, c'est comme une manière de mettre un visage sur un investissement. Parlez-nous peut-être de cette semaine de la finance solidaire.
Bien sûr. Merci à vous pour l'invitation. C'était la 10e édition de la semaine de la finance solidaire. Et vous l'avez rappelé, cette campagne de sensibilisation visait à montrer que plus qu'un projet de doux rêveur, hein, comme vous l'avez dit en introduction, cela représentait une démarche civique de personnes. Cette année, on a mis l'accent sur Eric, un épargnant solidaire qui est venu soutenir Domiti, une entrepreneur solidaire, fondatrice d'une entreprise Farinez-vous, qui agit dans la boulangerie artisanale et solidaire. L'idée de ces campagnes et l'idée de FinanSol, hein, depuis sa création en 1995, c'est de promouvoir la solidarité dans l'épargne et la finance en mettant, en lumière des produits d'épargne qui permettent de faire fructifier donc tout son épargne tout en favorisant l'accès à l'emploi et au logement pour des personnes en difficulté, et le tout en encourageant des activités également écologiques et l'entrepreneuriat dans des pays en voie de développement.
Alors on va le développer un peu en long, large et en travers cette finance. Est-ce que vous pouvez nous dire aussi un mot de FinanSol qui a organisé donc le 7 novembre dernier aussi le Grand Prix de la finance solidaire, où a été remis, j'imagine que ce n'est pas la première année non plus, un certain nombre de prix à quelques initiatives qui vont dans le sens de cette finance solidaire. Dites-nous un mot de ce prix qui est co-organisé par le journal Le Monde.
Alors, il y avait une remise de plusieurs prix, hein, chacune dans un secteur bien particulier. Un prix sur la question de la lutte contre l'exclusion, un prix sur l'engagement écologique, un prix sur l'engagement à l'international, hein, de structures qui permettent à des pays ou des régions du monde de pouvoir bénéficier de microcrédits et qui sont des véritables leviers d'aide au développement. Voilà une multitude de prix, 5 en tout, qui ont été remis après l'instruction des différents projets par un jury composé d'experts et qui ont permis de mettre en lumière à l'occasion de cette soirée, vous l'avez rappelé, des projets et une multitude d'esprits qui, à travers l'ensemble du territoire et même à l'international, nous permettent de croire que la finance solidaire a du beau jour devant elle.
Est-ce que vous pouvez prendre un premier exemple parmi les lauréats? J'ai noté par exemple en Auvergne une entreprise s'appelle Combraille Durable, c'est ça, qui produit de l'énergie citoyenne.
C'est exact. C'était une initiative locale qui visait à la fois à produire son électricité en local, en y associant l'ensemble des habitants de ce petit bourg, et en démontrant à la fois que l'énergie est un bien commun, qu'elle peut être produite autrement. C'est un engagement écologiste au sens plein et entier du terme, et qui a permis à cette structure à la fois de bénéficier eh bien, du soutien de la population locale pour la production d'électricité, qui a été soutenue par des financements, qu'ils soient d'institutionnels financiers classiques ou d'épargnants de la région et au sens plus large de l'ensemble du territoire national. Voilà une initiative très 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 locale, puisque c'était dans un tout petit village du Massif central, et qui fonctionne et qui aura probablement possibilité d'essaimer sur l'ensemble du territoire.
Qu'est-ce que pèse la finance internationale? En préparant l'émission, je suis tombé sur ces quelques chiffres. C'est 1 million d'épargnants, ça serait 10 milliards d'euros d'encours, et ça représenterait en fait ça représenterait 1%, c'est ça, de l'épargne française. Est-ce que c'est à peu près ces chiffres-là? Est-ce que vous pouvez nous dire?
Alors, nos chiffres ne sont pas les mêmes.
Tant mieux, c'est bien.
Ce qu'il faut savoir, c'est que le patrimoine financier des Français, le patrimoine, c'est un peu plus de 4 000 milliards d'euros. Et l'objectif de FinanSol, c'est qu'on atteigne, la finance solidaire atteigne 1% hein, de ces 4 000 milliards d'euros. Aujourd'hui, la finance solidaire, en 2016 et son encours global, c'est un peu plus de 1 milliard 310 millions d'euros.
Ah oui, en effet, d'accord. Différence d'un indice.
Voilà. Pour un encours total de un peu plus de 9 milliards d'euros, soit une progression de 15,5% sur un an. Et concrètement, cela a permis de verser un peu plus de 5 millions d'euros de dons à des associations et de générer un peu plus de 280 millions d'euros de financement solidaire pour soutenir des projets. Et encore plus concrètement, c'est 49 000 emplois créés ou consolidés sur le territoire, 5 500 personnes relogées et plus de 20 000 foyers approvisionnés en électricité renouvelable uniquement pour l'année 2016. Donc c'est considérable.
Jean-Paul Vigier, donc, oui. Je disais, vous êtes mieux connu de nos auditeurs, donc vous êtes un des chroniqueurs de la radio, et donc vous avez été aussi, dans une autre vie, le premier président donc, de FinanSol, qu'on a rapidement présenté, en fait, qui est un peu l'organisme qui labellise tous ces investissements, si j'ai bien compris, en termes de finances solidaires. Est-ce que vous pouvez nous raconter comment ça s'est passé? J'ai cru comprendre que ça avait commencé autour de deux figures, et entre autres, une religieuse et un ancien président du CCFD.
Oui, c'est effectivement la racine même de la création de la finance solidaire et de la finance éthique. Dans les années 75-80, un certain nombre de communautés religieuses féminines réfléchissaient à l'utilisation de leurs capitaux de manière à pouvoir les vivre selon leurs vœux de pauvreté. Et à ce moment-là, à la suite de deux personnalités ont permis de concrétiser cela. C'est d'une part la sœur Nicole Rey qui a suscité avec la société Mescart qui est présente ici, le premier fonds éthique français finalement qui permettait de placer l'argent en fonction d'un certain nombre de valeurs. Et par ailleurs, avec le CCV dont Gabriel Marc était président, a été créé le premier fonds de partage solidaire et qui a mené à la création de la CIDI dont j'étais le premier président.
Alors le CIDI, c'est un sigle qui signifie?
C'est internationale d'investissement et de développement, qui est une filiale du CCFD et qui a été et dont le financement a été possible par les résultats de ce placement solidaire qui était le premier placement solidaire qui a été créé en France. Donc autrement dit, on voit là très nettement que à partir d'une certaine réflexion éthique, et je dirais même religieuse, sont nés d'une part le grand courant de la finance éthique français et le grand courant de la finance solidaire français, auquel bien entendu d'autres initiatives sont venues se joindre, bien évidemment.
Alors là justement vous faites la distinction et elle vous tient à cœur parce qu'elle est essentielle même si elle n'est pas forcément claire pour le grand public. Vous faites une différence entre la finance éthique et la finance solidaire. C'est pareil pour les béotiens que nous sommes. Est-ce que vous pouvez nous dire quelle est la différence entre les deux?
La finance éthique, ce sont des placements dont le contenu du portefeuille, c'est-à-dire le choix des entreprises qui permettent, dont on achète les actions pour remplir le portefeuille, est fait selon des critères qui sont des critères éthiques, c'est-à-dire par exemple à partir de la politique sociale, de la politique environnementale, etc., etc., c'est-à-dire un certain nombre de critères selon lesquels on choisit de mettre ou pas dans le portefeuille du placement que l'on veut faire, les entreprises, ou bien parce qu'elles produisent, par exemple, il y en a qui ne veulent pas avoir dedans du nucléaire, du tabac, de l'armement, etc., ou par leur propre comportement. Voilà, c'est ça la finance éthique, c'est-à-dire c'est un choix de placement en fonction de valeurs éthiques. La finance solidaire est aussi éthique, c'est-à-dire qu'elle fait les mêmes choix, mais en plus, elle rajoute à ces placements une possibilité soit de don, c'est-à-dire que les épargnants acceptent de donner toute ou partie de leurs intérêts, par exemple, ou acceptent que leur épargne soit investie en prenant un risque dans des entreprises solidaires, par exemple, comme celle dont on a parlé tout à l'heure. Donc, c'est ça la différence qu'il y a. Les résultats de la finance éthique sont, je dirais, à peu près comparables, mais quelquefois meilleurs que ceux du CAC 40. La finance solidaire a aussi des résultats, mais une partie de ces résultats sont tournés vers la solidarité.
Et donc, quand, un peu plus tôt dans l'émission, Pierre-Louis Montero citait la proportion que représente cette finance dans l'épargne des Français, est-ce à dire que ça englobe les deux réalités, cette finance éthique solidaire, pas du tout?
Ce dont il parlait, c'était uniquement la finance solidaire. La finance éthique est infiniment plus importante. Infiniment plus importante. Je pense que là, les représentants de Mescar vont en parler. Il est certain que là, on entre dans un autre domaine parce que, effectivement, il n'y a plus, le couloir un peu étroit que peut représenter le fait d'être solidaire, c'est-à-dire que d'accepter de s'appauvrir après ses placements, mais je dirais de s'enrichir moins. Voilà.
Philippe Troège, peut-être juste sur les chiffres, qu'est-ce que ça représente si on fait cette distinction? Est-ce qu'on peut chiffrer ce que représente la finance éthique?
Oui, alors c'est un petit peu difficile de donner des chiffres extrêmement précis, mais je pense qu'aujourd'hui, ce qu'on appelle la finance éthique, c'est aussi, d'une façon plus large, la finance ISR, hein, investissement socialement responsable. Et si on regroupe effectivement les deux, aujourd'hui, on a 20% à peu près au niveau de l'investissement français. Donc j'ai pas exactement les chiffres en tête, mais on est sans aucun problème de l'ordre, si je fais à peu près le calcul, 200 milliards à 300 milliards aujourd'hui au niveau d'investissement socialement responsable.
Je suis d'accord avec vous, oui.
Donc, et ce qui est très important aussi, c'est de voir que les organismes d'État tels que la Caisse des dépôts, tels que le Fonds de réserve, le FRR, tels que l'ERAF aussi, qui est un fonds d'investissement pour les fonctionnaires, sont des fonds qui aujourd'hui investissent de façon socialement responsable, donc avec des critères éthiques assez importants.
Alors pour conclure cette courte présentation, on creusera le sillon après la première pause musicale. J'ai cru comprendre qu'il y avait une actualité autour de ces investissements, en tout cas donc pour la finance solidaire, si j'ai bien compris, c'est que dans le projet de loi de finances de 2018, il ne favoriserait pas ce type d'investissement, entre autres eu égard à la disparition de l'ISF. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer peut-être, Pierre-Louis Montero, sur ce sujet?
Oui, à la fois, notre clé d'alarme n'est pas sur la suppression ou non d'un impôt, mais véritablement sur la déduction fiscale qui y était associée. Parce que vos auditeurs le savent peut-être, la rémunération d'une épargne qui vient s'investir, une épargne solidaire qui vient s'investir dans des entreprises solidaires d'utilité sociale, elle est tirée de cette déduction fiscale. en sachant que nous rembourserons, je prends 100, le bénéfice, on va dire, tiré par l'épargnant, c'est la déduction fiscale qu'il a pu associer à son acte. Aujourd'hui, la transformation de l'ISF en IFI ne voit pas la portabilité de cette déduction fiscale. Or, aujourd'hui, cette déduction fiscale avait une importance très grande pour des entreprises qui ouvraient leur capital dans le secteur de la finance solidaire, et elle ne se voit pas contrebalancée. Nous avons estimé, avec des études tout à fait crédibles, que cela ne coûtait aux contribuables et aux pouvoirs publics que 10 millions d'euros. Mais quand on voit l'impact concret et territorial de cette action de finance solidaire et des actions des entreprises solidaires d'utilité sociale, on estime que l'effort est tout à fait supportable. Donc c'est pour ça que nous avons alerté les pouvoirs publics en disant faites attention, c'est un levier très important dans le financement de nos entreprises qui ont un effet social, environnemental et humain très important sur des territoires et qu'il ne faudrait pas oublier, sans quoi on mettrait en difficulté une grande partie de ces entreprises solidaires.
Et alors, est-ce que Finansol a priori été reçu par le gouvernement et a priori entendu sur ce sujet, d'autant que j'avais cru comprendre que c'était une des intentions de campagne d'Emmanuel Macron que d'essayer de favoriser cette finance. Quel est l'état des discussions, peut-être ?
Alors, les discussions ont eu lieu. Hein. Nous avons rencontré une multitude à la fois de conseillers ministériels, de ministres et de parlementaires. La difficulté, si vous voulez, et vous l'avez exprimé dans vos propos préliminaires, c'est que pour encore de trop nombreuses personnes, la finance solidaire est encore considérée comme étant l'apanage de doux rêveurs. Or, je tiens à rappeler, et je salue, j'en profite pour saluer monsieur Vigier, mais que l'un de nos présidents pendant la période 2007-2013, François De Witt, était quand même un journaliste économique d'une réputation incontestable. Il avait été journaliste économique à l'Expansion, à La Vie française, à Challenge. La preuve que la finance solidaire n'est en aucun cas, la vision de doux rêveurs, mais bien un engagement civique, humaniste, d'une finance en faveur de l'humain, plutôt que d'une finance que l'actualité nous démontre encore de plus en plus souvent, déconnectée du réel.
Jean-Paul Vigier, rapidement, on fait une première pause après.
Parce que il y a deux choses. D'une part, Finansol, on n'en a pas parlé jusqu'à présent, donne également un label qui garantit que les placements sont solidaires. Et il y a actuellement 150 produits qui ont été labellisés, présentés par les banques, des compagnies d'assurance, etc., etc. Et que d'autre part, a lieu le 21 décembre à la Banque de France, et je pense avec la présence de quelques ministres, la célébration du 20e anniversaire de ce label.
Merci pour la précision. Vous restez avec nous, Jean-Paul Vigier. On fait une première pause musicale et puis on va continuer à parler de ce sujet.
présence. Vivante Église, Emmanuel Pella.
Cette émission Vivante Église ce matin, donc avec ce titre Finance solidaire, l'autre finance, avec autour du plateau, pour rappel, si vous nous prenez en cours de route, Philippe Troesch, président du directoire de Mescart Asset Management, Aurélie Baudouin, qui travaille dans cette même entreprise, responsable recherche ISR, Pierre-Louis Montero, qui représentait Finance Seul et qui nous a quittés, et Jean-Paul Vigier, chroniqueur de Radio Présence, chroniqueur, on va dire, maison doctrine sociale de l'Église, et premier président de Finance Seul. Alors, dans cette deuxième partie, je voulais qu'on prenne le temps avec vous, peut-être en profitant de votre passage à Toulouse pour développer ce que fait le groupe Mescart. Alors peut-être si vous deviez présenter le groupe Mescart pour les Béotiens que nous sommes, comment est-ce que vous le présenteriez, Philippe Troche?
Alors oui, pour résumer un peu pour vos auditeurs ce que c'est la société Mescart, d'abord c'est une société éponyme qui appartient à une famille qui s'appelle Mescart, qui a plus de 80 ans d'existence aujourd'hui. Je crois que c'est 1935 la création de la société. On est à la troisième génération. Et c'est vrai que dans les années 80, ils ont développé avec Sir Nicholl Ray une approche de l'investissement éthique.
Donc Sir Nicholl Ray, on en parlait dans la première partie.
Voilà, exactement.
Voilà, qui est au début de la finance solidaire avec le CCFD.
Donc aujourd'hui, on a quatre grandes activités. Une activité de gestion privée, ça qui est l'activité classique, avec une activité aussi family office. Une activité d'investissement.
Juste, pardon, pour ceux qui ne connaissent pas, family office.
Alors, family office, c'est en fait une supervision des actifs financiers. C'est-à-dire que la gestion privée, c'est plutôt la gestion d'actifs financiers au niveau du particulier. Le family office concerne effectivement tous les actifs. Donc, c'est les actifs financiers, les actifs immobiliers. Et je dirais, ça peut être d'autres choses comme la gestion d'un certain nombre de biens, effectivement, qui ne sont pas des actifs immobilier ni des actifs financiers.
Voilà, ensuite, donc une troisième branche, c'est...
La troisième branche, c'est l'asset management dont je m'occupe, qui eux, alors donc ça c'est la gestion collective, on gère effectivement des fonds, soit des fonds collectifs ouverts au public, on a toute une gamme classique, actions, obligations, qui interviennent à la fois à l'international, sur les États-Unis, les pays asiatiques ou l'Europe. Et enfin, des fonds dédiés qui sont là justement destinés à soit des clients particuliers, soit des associations, soit des congrégations religieuses. Aujourd'hui, on gère un peu plus de 300 congrégations religieuses sur la France et qui sont des fonds qui sont vraiment spécialisés dans un certain nombre de domaines. C'est-à-dire qu'on investit, notamment c'est là où on met en application notre gestion éthique et ISR. Et on a...
ISR juste, c'est investissement socialement responsable.
Et dans lequel on applique une allocation d'actifs qui correspond effectivement à l'appétit au risque que peuvent avoir ces investisseurs. C'est-à-dire que ces congrégations ne veulent pas de temps en temps prendre des risques et donc on adapte effectivement notre allocation d'actifs avec la sensibilité qu'elles ont aux risques financiers.
Donc le groupe Mescart, juste pour rappel, vous m'avez donné quelques documents, c'est donc 5 milliards d'euros d'actifs
Absolument,
gérés, c'est ça
oui.
160 collaborateurs et donc vous êtes basé en France, mais vous avez aussi des bureaux à l'étranger.
On a un bureau effectivement en Belgique et aux États-Unis.
Alors, on l'a évoqué rapidement, mais si vous deviez nous refaire un petit peu ou compléter ce qui a été dit précédemment, je crois que c'était Jean-Paul Vigier qui en parlait, sur les débuts et ce premier fonds, alors je ne sais pas si c'est exactement le terme, j'en cherche mes fiches, qui a été créé donc au début et qui s'appelait donc Nouvelle Stratégie 50. Juste rappelez-nous en quelques mots, peut-être Aurélie, ce qu'est, est-ce qu'il existe toujours déjà ce fonds Nouvelle Stratégie 50 et puis reprécisez-nous quelle était sa particularité.
Nouvelle Stratégie 50, c'est un fonds qui existe encore aujourd'hui, qui a été créé en 1983 suite à cette discussion qui était évoquée tout à l'heure entre Sir Nicholl Ray et notamment le président de notre entreprise de l'époque, Luc Mescart, le père de notre président actuel, avec cette volonté de Sir Nicholl Ray de pouvoir appliquer les critères de sa congrégation sur l'investissement des actifs de la congrégation.
Mais alors en quoi ça consistait exactement, peut-être si vous deviez préciser?
Alors effectivement, tout était inventé à cette époque. Simplement, le constat qu'elle avait fait, c'est que c'était une congrégation qui était très présente via des communautés sur des pays en développement et que certaines entreprises européennes pouvaient avoir des effets très négatifs localement. Et elle voulait avoir une cohérence globale entre sa mission quotidienne et son investissement, et ne pas détricoter d'un côté ce qu'ils essayaient de tricoter de l'autre. Donc à cette époque,
pour il a dire fallu... plus clairement, c'est ça. En fait, les communautés étaient implantées, pardon, donc dans les pays du Sud, et ils ne voulaient pas investir dans les entreprises qui avaient des pratiques non éthiques dans ces pays du Sud.
Tout à fait. Et il a fallu inventer justement les critères de sélection à appliquer aux entreprises. À cette époque, c'était rencontrer les entreprises, le management, les dirigeants de l'entreprise, bien comprendre la mission de l'entreprise, l'objet social aussi, les relations que l'entreprise pouvait nouer avec ses salariés, mais avec tous les autres acteurs. Et progressivement, ces critères se sont développés. Et aujourd'hui, quand on parle d'investissement socialement responsable, on évoque souvent dans notre jargon un autre acronyme qui est le critère ESG, E pour environnement, tout ce qui concerne les politiques environnementales, S pour tout le social et sociétal. Donc à ce niveau-là, on a bien sûr les salariés, mais également toutes les communautés locales qui ont un impact lié à l'activité de l'entreprise. Et le G pour la gouvernance, la bonne gouvernance de l'entreprise, qui concerne aussi bien l'équilibre des pouvoirs au sein de l'entreprise, la relation avec les actionnaires, mais tout ce qui est aussi politique de rémunération, stratégie, développement de l'entreprise.
Philippe Troesch, on imagine que ça n'a pas été... Est-ce que ça a été simple au début? Parce qu'en fait, qu'est-ce que vous avez fait? Vous avez pris... Enfin, pardon, mais vous avez... votre fondateur a pris son bâton de pèlerin, en tout cas celui qui était chargé de développer ce fonds, et il est allé voir les entreprises pour les interroger, justement, sur ces critères.
C'est vrai que, je dirais, au départ, tous ces critères n'étaient pas du tout pris en compte par les entreprises. Tout le monde connaît, par exemple, Nike qui faisait travailler des enfants et effectivement, il y avait des répercussions sociales et sociétales dans ces pays qui étaient extrêmement fortes. Donc, la sensibilisation qui a été entreprise au niveau des entreprises a évolué au cours du temps. Et donc, de plus en plus, les entreprises ont commencé à tenir compte, effectivement, d'un certain nombre de remarques. Alors, il est vrai que nous étions petits au départ et que cette sensibilisation était compliquée. Donc on a pris nos bateaux de pèlerins. Je crois que Sir Nicole Ray a aussi parlé à ses chefs d'entreprise hein, et les a questionnés. Elle a pas hésité à interroger des grandes entreprises telles que Total, etc., qui ont été un peu mis sur la sellette à un moment donné. Et petit à petit, je dirais que tout ça a évolué de façon positive et est rentré de plus en plus dans les mœurs et est arrivé au niveau des entreprises où elles ont commencé à se questionner. Et en matière réputationnelle, je crois qu'aussi la presse a fait aussi une part de son travail, hein, parce que les polémiques ont été déclenchées et on voit bien dans le cas de Nike, par exemple, ça a été des polémiques très, très, très importantes. On peut parler de Monsanto aussi, qui a été aussi qui a posé un certain nombre de problèmes à un moment donné. Donc, tout ça a fait que ces entreprises ont été obligées de se transformer et de prendre de plus en plus en compte ce genre de problématiques.
Alors, l'ISR, je ne sais plus qui le disait tout à l'heure, mais je crois que c'était aussi Jean-Paul Vigier ou Pierre-Louis Montero. Donc, il y a en fait déjà des critères exclusifs, c'est ça? Vous pouvez les rappeler. Il y a certaines entreprises dans lesquelles il n'est pas envisagé d'investir, c'est ça?
Le principe de l'investissement socialement responsable, c'est de dire qu'on applique certains critères de développement durable, ou critères éthiques également, dans la sélection des entreprises. Après, au niveau des méthodes, vous avez différentes méthodes possibles, différents outils qui peuvent être appliqués dans la sélection des entreprises. Le premier élément méthodologique, c'est effectivement la possibilité pour certains fonds d'exclure certaines activités. Certaines ont été évoquées tout à l'heure, ça peut être les jeux d'argent, ça peut être le tabac, ça peut être l'alcool, il y a beaucoup de possibilités.
Ça peut être l'armement, l'industrie pornographique, etc.
Exactement. Donc ça, c'est un premier outil qui est à disposition des gérants dans l'investissement socialement responsable. Ça va dépendre aussi de la demande des clients. Deuxième outil, c'est pour chaque analyse effectuée, intégrer ces critères sociaux, environnementaux et de gouvernance. Donc chaque entreprise qui va faire l'objet d'une étude va utiliser cette grille d'analyse et on va voir si on souhaite pouvoir l'intégrer ou pas à nos fonds ISR.
Alors, pardon, hein, mes questions qui sont très béotiennes, hein, mais en fait, c'est vous qui vous portez garant de... Ou est-ce qu'il y a une forme de labellisation extérieure? J'ai le souvenir de l'entreprise, je crois que c'est Vigeo, c'est ça, de Nicole Nota. Donc, s'il y a des cabinets, j'imagine... Comment ça se passe un peu, ces formes de labellisation éthique des pratiques des entreprises?
Alors, il y a toute une offre qui s'est développée sur l'évaluation des entreprises sur ces sujets-là. tout ce qui est lié finalement à la responsabilité sociale de l'entreprise. Et vous avez des agences comme Vigeo que vous évoquez, vous en avez d'autres qui existent comme Ethifinance, Sustainalytics, Ecom, et qui, nous, sont des fournisseurs pour nous de données pour pouvoir étudier les entreprises. Donc quand on a par exemple une étude Vigeo, ça nous permet d'avoir tout un profil qui fait entre 60 et 70 pages pour chaque entreprise sur des indicateurs qui peuvent être qualitatifs mais aussi très quantitatifs sur les politiques mises en place par l'entreprise, les moyens développés par l'entreprise pour pouvoir appliquer ces politiques et les résultats obtenus. Avec un autre élément en signal fort cette fois-ci, ce sont les controverses que l'on peut retrouver sur les entreprises.
Philippe Troesch, hier, c'est pour ça que vous faites un détour par les studios de Radio Présence, vous êtes intervenu devant les économes diocésains des diocèses de Midi-Pyrénées. Donc, racontez-nous peut-être cette rencontre et pourquoi cette rencontre.
Pour être extrêmement transparent avec vous, aujourd'hui, on a la chance de pouvoir gérer une partie de l'argent du diocèse de Toulouse. Et l'idée qu'il y a à travers la réunion de ces économes de la province, c'est d'essayer d'utiliser ce produit pour l'épargne des diocèses. Et l'intérêt qu'ils y voient aujourd'hui, et je pense que voient aussi les évêques dans ce type d'instrument, c'est de rendre un peu plus transparent la gestion effectivement de ces avoirs financiers. Je rappelle que ces avoirs financiers viennent souvent du denier du culte hein, et aussi de dons, et qu'il y a une espèce de responsabilité au niveau des évêques d'essayer de rendre de plus en plus transparente cette gestion financière et la moins opaque possible. Et à travers ce fonds qui s'appelle le fonds le CAGIR, on est totalement transparent. Il y a un dialogue permanent avec les économes qui ont investi dedans sur le choix de nos actifs. Pas un dialogue, je dirais, a posteriori, mais a posteriori, on justifie ou on ne justifie pas. Et quand on ne justifie pas, ben on ne garde pas les actifs dans le fond. Mais il y a effectivement ce dialogue et une interprétation de ces critères extra-financiers, parce que c'est là où on vient dans l'éthique. C'est souvent les critères extra-financiers nous donnent une certaine notation. Mais après, il y a notre interprétation à nous et notre jugement moral sur la valeur. Et c'est là où on fait effectivement une gestion éthique.
Pour finir, peut-être, est-ce que vous pouvez citer d'autres fonds comme ça que vous avez développés? Vous en citiez un en préparant l'émission qui s'appelle Procléro, peut-être connu de certains qui sont proches de la communauté Saint-Martin. Dites-nous quelques mots de voilà qui disent un peu la réalité, comment dire, dans le monde ecclésial et la sensibilité du monde ecclésial à ce type d'investissement.
Alors, Procléro a cette double spécificité d'être à la fois un fonds ISR et également un fonds de partage, ce qu'on évoquait en début d'émission. Fonds de partage dans la mesure où une partie des frais de gestion va être reversée à la communauté Saint-Martin. Et là, ça fait partie des exemples où on a établi toute une grille de critères éthiques qui est adaptée à la demande de la communauté Saint-Martin. Nous avons aussi d'autres fonds sur ces critères ISR comme MAM Human Values, qui applique là aussi des éléments sur le social, l'environnemental, la gouvernance. Et puis au fur et à mesure, on voit d'autres critères qui émergent, comme aujourd'hui toute l'actualité sur la transparence fiscale et la lutte contre les paradis fiscaux.
Vous voulez dire qu'en fait, c'est vos clients qui vous sollicitent sur ces questions ou c'est...
Tout à fait. On évoquait aussi tout à l'heure le CCFD. Le CCFD, on a un fonds de partage avec eux. Et dans la mesure où... l'objet de cette ONG, c'est bien de lutter contre les déplacements de population, les OGM alimentaires, et lutter contre la faim dans le monde. Il y a des critères qui sont très spécifiques, qui sont adaptés à ce fonds.
On va faire une deuxième pause, et puis on va donner un peu la parole au pape François, qui, on le sait, n'est pas toujours très tendre avec le monde de la finance.
Oh.
Emmanuel Pella.
Cette émission Vivante Église, si vous nous prenez en cours de route, et cela arrive, Finance Solidaire, l'autre finance, avec autour du plateau Philippe Troèche, président du directoire de Mescart Assess Management, Aurélie Baudouin, qui travaille dans cette même entreprise, et Jean-Paul Vigier, premier président de FinanSol et chroniqueur doctrine sociale de l'Église de Radio Présence. Alors dans cette dernière partie d'émission, je voulais qu'on essaye de tenir peut-être un propos encore plus général que ça ne l'a été dans la première partie, et avec entre autres votre aide, Jean-Paul Vigier, pour un interroger en partant des questions, on va dire, très simples, presque de la caricature que je faisais au début d'émission, dans mon introduction, sur la finance. Alors je donnerai la parole juste au pape François pour introduire votre propos en revenant sur les propos qu'il avait tenus lors d'un voyage aux États-Unis. Il avait, été, comme en d'autres occasions, il avait eu des termes assez durs à l'égard d'une dérive de la finance aujourd'hui, parlant de cupidité, d'avidité, de grave offense, je cite, d'asphyxie, plus généralement donnant l'impression qu'il y a dans ce système, qu'il y aurait dans ce système quelque chose d'un peu vicié. À l'époque, après son voyage en tout cas, ou pendant son voyage, ça n'avait pas plu à tout le monde. Est-ce que c'est un des leitmotifs du pape François? Est-ce que vous pouvez éclairer ce leitmotiv, Jean-Paul Vigier?
Oui, je crois qu'il faut le resituer dans l'histoire. Depuis Paul VI, même avant, tous les papes ont systématiquement condamné certains usages de la finance. Jean-Paul II, qui parlait même de structure de péché, en parlant de mécanismes qui étaient mis en place pour justement favoriser ce qu'il appelait lui aussi la rapacité d'un certain nombre de personnes de société. Benoît XVI, dans Caritas in Veritate, lui aussi, d'une part, préconise les placements éthiques, le microcrédit, etc., etc. Et lui aussi condamne de manière très forte et très formelle, surtout que c'était juste après le crash de 2007, la finance qui était devenue folle. Et ce que dit François, c'est la même chose, mais il le dit avec son tempérament et certainement une vigueur beaucoup plus forte. Mais il y a dans la doctrine sociale de l'Église, il y a un courant constant pour dire que l'argent est fait au service de l'homme et non pas l'homme au service de l'argent. Ça, je crois que c'est très très fortement inscrit dans tout ce qu'ont pu dire les papes depuis 100 ans.
Alors juste quand vous dites structure de péché, parce que pour nous qui ne sommes pas spécialistes, vu de loin, on peut se dire que la finance a évidemment une utilité profonde pour la société. Mais quand on entend structure de péché, alors déjà rappelez ce que c'est qu'une structure de péché et pourquoi Jean-Paul II utilisait ce terme, qu'est-ce qu'il entendait derrière et pourquoi il portait cette accusation en fait.
C'est-à-dire que le raisonnement de Jean-Paul II est celui-ci. Le péché est par définition personnel. Mais lorsque un certain nombre de personnes se mettent ensemble pour créer des structures qui ne sont tournées que vers leur propre rapacité ou leur propre désir de faire de l'argent à tout prix, ces structures elles-mêmes génèrent des péchés parce qu'un certain nombre de personnes qui pourtant ne seraient pas a priori portées à cette rapacité sont obligées d'utiliser ces structures et donc de ce fait entrent elles-mêmes dans cette démarche. Autrement dit, c'est ça la structure de péché, c'est-à-dire que il y a des structures qui sont tournées exclusivement vers la recherche d'argent, etc. Mais ça peut être aussi bien vers le sexe, etc. Hein. C'est pas uniquement tourné vers l'argent, qui font que ces structures elles-mêmes amènent des gens à pécher contre la charité.
Alors, est-ce à dire que quand je lis d'autres extraits, hein, cette fois c'est l'encyclique Laudato Si, les finances étouffent l'économie réelle au service des finances et du consumérisme, la soumission de la politique à la technologie et aux finances, le pape le dénonce, sauver les banques à tout prix en faisant payer le prix à la population sans la ferme décision de revoir et de réformer le système dans son ensemble, réaffirme une emprise absolue des finances qui n'a pas d'avenir et qui pourra seulement générer de nouvelles crises après une longue, coûteuse et apparente guérison. Est-ce que, d'une certaine manière, l'Église, jette l'anathème en fait sur le monde de la finance, ou est-ce que c'est par trop excessif de voir cela comme ça? Est-ce que dans le fond le propos est beaucoup plus nuancé, en tout cas quand on lit le pape François?
Je crois qu'il faut distinguer deux choses dans ce que dit le pape. il fait une analyse qui est une analyse économique, bon, et pas du tout religieuse, une analyse économique, qui dit qu'effectivement, la crise de 2007 a fait apparaître que la finance est devenue folle et elle avait effectivement complètement perdu l'économie. Voilà, ça c'est vrai. Et il dit, et c'est vrai aussi, qu'un certain nombre de réformes ont été faites, mais elles ne sont pas suffisantes et rien ne prouve qu'il n'y aura pas de nouveau une autre crise. Et certains économistes actuellement le disent et le pensent. Bon, à ce point de vue-là, c'est une analyse certainement pessimiste, mais c'est une analyse économique. Et d'autre part, il y a effectivement une analyse qui alors est, je dirais, religieuse, qui est effectivement de dire si cela se fait, c'est parce qu'il y a un certain nombre d'hommes, de gens, qui mettent en avant l'argent avant de mettre l'homme. Voilà. Autrement dit, il y a les deux dans ce que dit le pape. Il y a exactement la même démarche qu'il fait par rapport à l'écologie. Hein. C'est-à-dire qu'il fait d'abord une analyse qui est une analyse basée sur, en l'occurrence, les économistes, ou pour l'écologie, sur les scientifiques qui s'occupent de ça. Et après, il y apporte un éclairage religieux. Voilà. Autrement dit, là, il s'agit d'une analyse économique que je trouve un peu pessimiste, mais qui est réelle.
Philippe Troesch, comment on reçoit ces propos du pape? Est-ce que vous, comment dire, je sais pas, comment vous les recevez?
Non, mais c'est tout à fait compréhensible. Je crois que vous l'avez bien expliqué dans l'interview là. Je crois que la finance qui, effectivement, la finance pour elle-même ne marche pas, en fait. C'est toute l'histoire de la finalité. Si elle est au service de l'homme, ça va. Si elle n'est pas au service de l'homme, et si c'est uniquement de l'enrichissement personnel, donc si c'est pas pour le bien commun, je crois qu'elle tourne en rond et elle aboutit à des bulles spéculatives et à des éclatements de bulles. Donc je crois que ce qui est très important, c'est que la finance et les banquiers ou les gens qui travaillent dans la finance ont une responsabilité particulière. Et je crois que le pape...
Est-ce que vous trouvez parfois que le pape est un peu excessif? Par exemple, je lisais en préparant l'émission des propos de Pierre de Lauzin, et donc qui est directeur général de l'Association française des marchés financiers, qui laissait entendre, je l'ai entendu à d'autres moments... parfois, peut-être, le pape n'était pas, dans son analyse économique, aussi précis que dans son analyse morale.
Je pense que, de toute façon, l'économie a besoin de la finance. Donc la finance est au service de l'économie. Le risque qu'il y a, et à chaque fois, c'est toujours le problème des bulles, c'est la déconnexion entre la réalité économique et la réalité financière. Je rappelle que 2008, c'est ce qu'on appelle la crise des subprimes, hein, qui était effectivement des prêts qui avaient été accordés à des gens qui n'avaient pas les moyens de le rembourser, et ça n'avait aucun sens. Donc dès qu'elle perd son sens premier, je dirais, de financement de l'économie, on aboutit effectivement à des bulles et à des crises financières. Aujourd'hui, il y a des risques, hein, c'est vrai, on n'est pas là pour alarmer les gens, mais il y a encore des produits financiers qui sont extrêmement spéculatifs ou qui sont déconnectés de la réalité des choses, et donc on a un risque d'éclatement. Donc je pense que le pape systématiquement met en garde les financiers qui ont cette responsabilité particulière de faire attention aux produits qu'ils créent et à la façon dont ils les utilisent. Encore une fois, un marteau est un outil, mais si vous l'utilisez pour planter un clou, c'est pas la même chose que si vous l'utilisez pour taper sur quelqu'un. Donc c'est exactement la problématique qu'on a aujourd'hui.
Vous me disiez pendant la pause musicale que pour vous, c'est le pape Benoît XVI dans Caritas in Veritate qui avait dans le fond le plus enfoncé le clou. Redites-nous pourquoi et peut-être aussi l'importance de la notion de gratuité.
Alors, je pense que effectivement, il a donc l'analyse de Caritas in Veritate est arrivée effectivement après la crise financière de 2008 et il a démontré de façon très très pertinente la façon dont on pouvait éviter ces crises financières en consacrant la finance au service de l'homme et au service de l'économie. Moi, je pense que le problème de la finance, c'est le problème de la marge. C'est que si cette finance cherche à avoir des marges trop importantes, je rappelle que vous avez tous connu Goldman Sachs vendant des produits totalement illiquides et totalement hybrides, notamment dans les subprimes, en sachant pertinemment que ces produits ne gagneraient jamais d'argent. Et tout ça parce qu'ils voulaient assurer leur marge financière. Bon. dans ces conditions, on voit bien, il y a une espèce de dole, on vend des produits qui sont déjà des produits qui ne vont jamais marcher en matière de finance. Donc il y a une responsabilité à ce niveau-là. Nous pensons qu'on peut réussir à faire de la bonne finance, notamment par exemple sur les fonds de partage. Les fonds de partage, la société Mescar accepte en redistribuant une partie des frais de gestion de diminuer sa marge, d'être pas très rentable au départ, mais pour avoir une rentabilité meilleure par la suite et dans la durée.
Avec donc c'est votre manière d'introduire cette notion de gratuité. C'est
absolument.
Ça, et pourquoi est-ce qu'elle est fondamentale peut-être?
Parce qu'on arrive à redonner du sens.
Même pour vous, j'ai envie de dire.
Pour nous, la société a du sens, c'est-à-dire qu'on aide et on partage une partie de nos profits au profit d'œuvre, mais en même temps, on sait que l'œuvre nous le rendra d'une manière ou d'une autre, c'est-à-dire que nous aidera à grossir les actifs et à la fin, même si notre marge est moindre, mais on retrouvera effectivement un certain profit. Donc, je dirais, c'est un peu trivialement, c'est win-win. C'est-à-dire que tout le monde est gagnant dans cette perspective. Mais au départ, il faut accepter effectivement, probablement, d'être moins court-termiste. Et le problème de la finance court terme, on sait ce que ça donne, et d'avoir une perspective plus long terme. Et je pense que là, on arrive à effectivement des bonnes pratiques de la finance.
Jean-Paul Vigier, peut-être pour finir, est-ce que, vous qui avez été premier président de FinanSol, vous y croyez justement à une autre finance qui est justement ordonnée peut-être à cette première notion du service de la personne et de la gratuité?
Mais moi, je crois que la finance éthique et solidaire est à la finance ce que l'agriculture bio est à l'alimentation. C'est-à-dire qu'elle permet à des personnes d'éviter des produits toxiques et elle permet de pouvoir, d'une certaine manière, retrouver une forme de cohérence avec soi-même. C'est-à-dire que la finance éthique et la finance solidaire sont un moyen pour des personnes, et c'est en ça qu'elle est intéressante, c'est pour ça qu'il y a de plus en plus de gens qui se tournent vers elle, de mettre en concordance leur éthique personnelle, leur foi éventuellement, et leur comportement financier. Et ce que font les évêques, certainement, va dans ce sens. Donc je crois que c'est un outil nouveau pour permettre à des gens qui veulent vivre autrement, qui veulent effectivement consommer autrement, comme les papes le demandent, changer de style de vie, etc., pour éviter aussi une catastrophe écologique. C'est un des outils qui permettent d'avoir une action réelle sur la société, sur la finance, sur la consommation, sur l'épargne, de façon à ce que on puisse avoir une action qui peut éviter ou limiter les problèmes écologiques, les problèmes de changement de climat qu'on peut avoir actuellement par un changement de vie.
Eh ben, merci beaucoup à tous nos invités de ce matin d'être venus nous parler donc de cette finance solidaire et éthique, cette autre finance, et merci particulièrement à Jean-Paul Vigier, chroniqueur de Radio Présence et au cabinet Mescart, c'est ça, on dit cabinet ?
Société
Mescart, pardon. Merci beaucoup, cette émission a été réalisée par Christophe Aubry, vous pouvez la réécouter ce soir en fait à 21h pardon, ou en podcast sur notre site internet ou notre page Facebook. Quant à moi, je vous donne rendez-vous lundi.